France Inter. Secret d'info. Mathieu Aron.
En plein cœur de Zurich, les policiers suisses interpellent un à un ce matin plusieurs dirigeants de la Fédération internationale de football.
Sous le feu des critiques, Sepp Blatter promet des réformes.
Le bateau de la FIFA sur les eaux claires, transparentes.
Nous avons suivi, comme vous tous, ou grâce à vous, un peu tout ce qui s'est passé. Et sincèrement, moi qui aime la FIFA, je suis dépité. Je suis écœuré. Et j'en ai marre. Enough is enough. Donc c'est trop. Trop, c'est trop.
Trop, c'est trop. L'indignation, le coup de gueule de Michel Platini. C'était le 28 mai dernier. Quelques heures après un véritable coup de tonnerre, l'arrestation de plusieurs dirigeants du football mondial dans le cadre d'une enquête menée par le FBI sur le versement de pots de vin. Bonsoir Benoît Colomba.
Bonsoir Mathieu.
Vous avez enquêté pour Secret d'Info sur les très nombreuses accusations de corruption au sein de la FIFA, la Fédération internationale de football. Alors c'est un véritable système qui commence à être mis à jour. On va y revenir. Et au cœur de ce système, il y a un homme.
Oui, Sepp Blatter, 80 ans, inamovible président de la FIFA pendant 17 ans, de 1998 à 2015, obligé de démissionner sous la pression des investigations américaines et suisses. Sepp Blatter suspendu par la commission d'éthique de la FIFA pour gestion déloyale et abus de confiance.
Et pourtant, cette FIFA, objet de tous les scandales, c'est une simple association à but non lucratif.
Oui, une association de droit suisse fondée en 1904, mais c'est une association qui brasse aujourd'hui des milliards. Elle regroupe 209 associations sportives, 209 fédérations de football dans le monde. C'est plus que les Nations Unies. Un budget de 5 milliards de dollars, des réserves financières d'un milliard et demi, des revenus multipliés par 20 en 20 ans.
Alors voilà pour le côté pile.
Mais côté face, c'est également un système sans aucun contrôle qui laisse le champ libre à la corruption, témoigne Guido Tognoni. Il a été le conseiller de Sepp Blatter de 1984 à 1995 et de 2001 à 2003.
À mon avis, c'est une démocratie folklorique. Ce qui est similaire à la mafia, c'est que la FIFA a établi un filet autour du monde, un filet de pouvoir autour du monde, qui, quelquefois, est plus fort que le filet du gouvernement.
Une démocratie folklorique. Alors, pour bien comprendre sur quoi reposent les accusations qu'on vient d'entendre, il faut que vous nous expliquiez d'abord comment fonctionne cette FIFA.
Oui, alors, son président est élu par les 209 associations sportives qui représentent en quelque sorte le parlement de la FIFA sur un principe simple. Un pays égale une voix, quelle que soit la taille du pays, ce qui entraîne forcément du clientélisme, estime le journaliste suisse Christian Rappa.
Sepp Blatter a compris dès son arrivée qu'un pays égale une voix. La voix du Liechtenstein est égale à celle de l'Allemagne. Donc, il suffit de s'assurer l'adhésion de toutes ces petites fédérations qui ont une voix comme les grandes, eh ben, en arrosant un peu à gauche, à droite, en fermant les yeux sur des systèmes corrompus. On arrive à s'attacher la sympathie de tous ces présidents et puis d'être quasiment président à vie, finalement.
Un président à vie, mais qui doit composer cependant avec une sorte de gouvernement.
Oui, il s'agit du comité exécutif de la FIFA, une vingtaine de personnes qui, jusqu'à très récemment, ont voté notamment pour l'attribution des Coupes du Monde avec des enjeux financiers considérables. Ce gouvernement de la FIFA, ce comité exécutif est désigné par 6 confédérations qui représentent les grandes parties du globe. L'Afrique, l'Asie, l'Europe, un bloc Amérique du Nord, Amérique centrale, Caraïbes, l'Océanie et l'Amérique du Sud. Alors au final, ce sont donc les responsables de ces confédérations à l'éthique souvent discutable qui détiennent les clés du pouvoir de la FIFA, explique le journaliste à France Football, Éric Champel.
Beaucoup de confédérations pratiquent ce qu'on appelle le vote par bloc, c'est-à-dire qu'elles donnent des consignes de vote très fortes à leur fédération au moment des élections. Donc d'où la nécessité pour Blatter de rester proche des présidents de confédération, parce que ce sont eux après qui donnent des directives de vote. Donc il y a certaines confédérations, en Amérique du Sud notamment, où on avait affaire à de véritables parrains. Et c'est pas un hasard aujourd'hui si toutes les enquêtes menées par le FBI et la justice américaine et suisse ont débuté en Amérique du Sud, avec des pots de vin et des rétrocommissions concernant le continent sud-américain.
Et effectivement, plusieurs anciens responsables de la Confédération d'Amérique du Nord et des Caraïbes se retrouvent aujourd'hui dans le collimateur de la justice américaine.
Des policiers américains qui ont décortiqué un véritable système qui a été mis en place il y a un peu plus de 40 ans.
Oui, en 1974, avec l'élection du Brésilien João Havelange à la tête de la FIFA. C'est un homme d'affaires proche des dictatures sud-américaines, un homme qui change complètement le visage de la FIFA, raconte l'ancien rédacteur en chef de l'équipe, Jacques Ferrand, 95 ans. L'homme est une mémoire vivante du football. Il a participé à la création de la Coupe d'Europe et du Ballon d'Or. Il connaît tous les protagonistes de cette histoire, à commencer donc par João Havelange.
L'entrée d'Havelange a été à double effet. Un effet positif, la transformation, le pouvoir du football dans le monde et en même temps des habitudes d'arrangement, d'abord peu important et puis important, se sont produits. Il s'est senti intouchable. L'espèce de système mafieux qui a commencé doucement à se mettre en place.
Et ce système, il a pu se mettre en place, Benoît Colomba, parce qu'à l'époque, l'argent commence à affluer dans le football moderne.
Oui, l'argent des sponsors, des marques de sport, l'argent des droits télé qui commence à exploser. Une révolution culturelle orchestrée par deux hommes de l'ombre, l'ancien journaliste anglais Patrick Nelly et surtout le patron d'Adidas, Horst Dassler.
Et c'est justement ce Horst Dassler qui va mettre le pied à l'étrier à un certain Sepp Blatter.
Oui, nous sommes en 1975. Blatter est recruté par le patron d'Adidas comme directeur technique. Il devient la cheville ouvrière de ce foot business. Blatter est polyglotte. Il a été secrétaire général de la Ligue de hockey suisse et a notamment travaillé pour les chronomètres Longines aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Le début d'une longue ascension, raconte la mémoire du foot Jacques Ferrand.
Dassler a conseillé à Havelange de prendre Blatter avec lui. Il a même payé Blatter au début parce que la FIFA manquait soi-disant de ressources. Il est rentré à la FIFA et il en est devenu enfin secrétaire général.
Donc au début, Blatter a été payé par Adidas, c'est ce que vous expliquez.
D'abord payé par Adidas, Blatter était donc l'ami et un peu l'homme de Dassler. Dassler aimait bien avoir des hommes à lui dans les grandes instances internationales. C'était une des raisons pour lesquelles le football a grandi autant, c'est cette alliance entre le sport et les affaires.
Et dans cette alliance entre le sport et les affaires, un partenariat stratégique est conclu avec la boisson Coca-Cola.
Et cet essor du foot business, il a une conséquence, les sommes en jeu deviennent colossales et peu à peu, tout le monde se retrouve prisonnier du système.
Et pour s'en convaincre, écoutez ce que raconte pour la première fois notre micro Jacques Ferrand. Nous sommes en juin 1983, le patron de la Fédération Italienne de Football, Artemio Franchi, se confie aux journalistes.
J'étais au Mexique pour une compétition organisée par la FIFA. Il y avait Havelange, tout ça, et mon ami Franchi, président de la Fédération italienne et président de l'UEFA. Il me dit, je suis dans une position impossible. Qu'est-ce qui vous arrive ? Havelange m'a mis au poste de président de la commission des finances de la FIFA. Or, je viens d'apprendre sur Havelange des choses terribles. Par exemple, il se fait payer une voiture de fonction 4 fois par plusieurs pays. Donc c'est encore, vous voyez, un tout petit début de corruption. Il me dit, j'ai en face de moi un homme dont je sais qu'il est corrompu, quoi, disons le mot, et je peux pas le dire. Il me dit, malheureusement, il me tient. Pourquoi ? Parce qu'il y a la Coupe du Monde qu'on organise en 1990 en Italie.
On comprend bien, Benoît, avec cette histoire, comment finalement Havelange fait régner une sorte d'omerta. Mais alors Sepp Blatter, lui, comment il se situe dans cette organisation ?
Alors depuis 1981, Sepp Blatter est secrétaire général de la FIFA, donc c'est le bras droit d'Havelange, autant dire qu'il connaît parfaitement le dessous des cartes, pour le meilleur et pour le pire, à tel point qu'au début des années 90, Blatter aurait même envisagé de dénoncer Havelange, dévoile encore Jacques Ferrand.
Au début, c'est Blatter lui-même qui veut dénoncer Havelange. Il veut faire partir Havelange et le remplacer. Parce que lui ne veut pas entrer dans les méthodes de corruption d'Havelange, dans le système Havelange, qui était de plus en plus un système mafieux, avec la complicité notamment des Sud-Américains. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est très clair. C'est qu'en 94, Havelange voulait être encore une fois président. Alors il décide, au lieu d'être des rivaux mortels, comme ils étaient, de devenir des complices. Ils concluent un pacte, tous les deux. Qu'est-ce qu'ils décident? Qu'en 94, ça sera encore une fois Havelange. Mais qu'en 98, Havelange enfin consentira à s'en aller et Blatter prendra sa place. Ils s'arrangent.
Un Un pacte secret est donc conclu entre les deux hommes et comme prévu, en 98, Sepp Blatter succède finalement à João Havelange. Blatter devient alors le président de la FIFA, avec l'aide d'ailleurs d'un Français, Michel Platini. On va y revenir. Mais Benoît, on a bien compris comment Sepp Blatter était arrivé au pouvoir, mais une fois parvenu au sommet, qu'est-ce qu'il va faire du système Havelange ?
En fait, rien ne va changer. Hein. Le système Havelange devient le système Blatter, un système que certains tentent pourtant de dénoncer de l'intérieur, comme l'ancien secrétaire général de la FIFA, Michel Zenrufinen. En 2002, il rédige un rapport confidentiel, accablant pour l'organisation. Il dénonce le verrouillage de la FIFA et le versement d'argent incontrôlé, comme par exemple 100 000 $ accordés indûment à un membre du comité exécutif, ou encore 2 fois 25 000 $ promis à un arbitre nigérien pour qu'il fournisse des informations contre le président de la fédération somalienne qui avait eu le malheur de remettre en cause la régularité de l'élection de Blatter à la tête de la FIFA.
Alors quand on vous écoute, on a l'impression d'entendre la description d'une véritable république bananière.
Bah, c'est pourtant bien ce qui est écrit dans ce rapport que nous avons pu nous procurer. En voici un extrait.
La FIFA fonctionne comme une dictature. Ce n'est plus une organisation honnête et structurée. C'est une organisation au service de Blatter qui a pris le nom de FIFA. Tous ceux qui remettent en cause ce fonctionnement sont évincés par le président. Quant aux comptes de l'organisation, ils semblent en ordre, mais c'est une illusion. La FIFA se caractérise par une mauvaise gestion, des dysfonctionnements structurels et des irrégularités financières.
Et quelques années plus tard, le juriste Mark Pitt se penchera lui aussi sur les comptes de l'organisation et voici ce qu'il découvre.
Il n'y avait pas vraiment de comptabilité raisonnable. Avant 2002, il n'y avait pas. C'était apparemment normal qu'on pouvait donner 1 million par année à un collègue sans trace dans la comptabilité, entre copains.
Ça semble quand même hallucinant, mais dites-moi, ce rapport confidentiel dont on a entendu un extrait il y a quelques secondes, qu'est-ce qu'il est devenu ?
Bah, pas grand-chose finalement. Dans un premier temps, Michel Zenrufinen, l'homme qui dénonce, est soutenu par 11 membres du comité exécutif, donc le gouvernement de la FIFA. Une plainte contre Blatter est déposée devant la justice suisse, puisque le siège de la FIFA est à Zurich. Mais Blatter résiste contre vents et marées. Il est réélu président de la FIFA en mai 2002. Le secrétaire général rebelle, lui, eh bien, il est licencié. Ce qu'il avait soutenu, il rentre dans le rang. Quant à la plainte pour détournement de fonds, elle est finalement classée par la justice suisse.
Blatter reste donc en place, mais il va se retrouver confronté à un autre scandale qui aurait pu l'emporter.
C'est une histoire incroyable, qui aurait dû faire exploser la FIFA il y a déjà 15 ans. C'est l'affaire ISL, International Sport and Leisure, du nom d'une société de marketing fondée par, décidément on retrouve toujours les mêmes, fondée par Horst Dassler, le patron d'Adidas. ISL gère les droits marketing de la Coupe du Monde et arrose au passage de hauts responsables de la FIFA, notamment João Havelange. Un système de rétro-commission orchestré donc par une société au cœur du système FIFA. Écoutez le député suisse Roland Buchel, il a travaillé chez ISL au début des années 2000.
C'est la pièce centrale, oui. ISL avait tous les contrats marketing au niveau mondial et tous les contrats télé au niveau mondial à part l'Europe. Et c'était de loin la plus grande entreprise de marketing du sport à l'époque. C'est 100 fois plus d'argent qui entrait à la FIFA grâce à ISL avec les contrats marketing et télé.
100 fois plus d'argent qui rentre dans les caisses grâce à ISL. Et pourtant, Benoît, cette affaire, elle va virer au fiasco.
Mais trop de pots de vin, trop d'investissements hasardeux pour une société en situation de quasi-monopole. En 2001, ISL fait faillite et l'argent de la corruption apparaît alors au grand jour, raconte l'ancien adjoint de Blatter, Guido Tognoni.
L'administrateur de la faillite, un jour, il est venu chez moi, il a dit « Monsieur, nous avons un problème. » J'ai dit « Quel problème ?» Il a dit « J'ai trouvé des immenses sommes de corruption. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Alors j'ai dit « Mais je dois le dire à M. Blatter. » La réaction de M. Blatter était sereine, mais pas choquée. Il n'était pas choqué de ce fait. Il était peut-être choqué que le problème de la FIFA agrandisse avec ça, mais il n'était pas choqué du fait qu'il y avait de la corruption immense à la FIFA. M. Blatter savait tout. La FIFA, encore plus qu'auparavant, croyait qu'elle était intouchable.
Blatter savait tout, dit son ancien bras droit, mais c'est Blatter, lui, il dément.
Oui, contre toute évidence, Blatter a toujours répété qu'il n'était pas le comptable de la FIFA et donc qu'il ne savait pas vraiment ce qui s'y passait. Voilà ce qu'il répondait encore à un journaliste de la télévision suisse il y a 9 mois.
Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent « c'est pas possible que M. Blatter n'ait pas su, c'est impossible » Alors à ce moment-là, je devrais avoir un service de renseignement comme les États-Unis, comme la Russie, comme les Allemands. Je n'ai pas de service de renseignement. Le football est basé sur discipline, respect et fair play.
Discipline, respect et fair play. Voilà la ligne de défense de Sepp Blatter. On précise que son avocat n'a pas voulu répondre à notre demande d'interview. Alors pour revenir à l'affaire ISL, Benoît, le plus incroyable, c'est que la FIFA est en réalité la victime d'un système qu'elle a elle-même créé.
Ah oui, les investigations démontrent en effet que les dessous de table correspondaient à de l'argent qui aurait dû revenir à la FIFA. Elles montrent également que ce système était connu et que rien n'a été fait pour l'arrêter. Au total, ce sont plus de 100 millions d'euros de pots de vin versés dans les années 90. Le député UDI François Rocheblan était le rapporteur d'une commission parlementaire du Conseil de l'Europe qui a enquêté sur ISL et il n'en revient toujours pas du double jeu de la FIFA dans cette affaire.
La FIFA, finalement, servait de couverture pour verser des pots de vin. Finalement, c'est elle qui était victime, puis c'était de l'argent qui aurait dû rentrer, aller à la FIFA et qui allait à des X personnes.
Un double jeu, donc, qui a à l'arrivée un énorme détournement d'argent. Mais dites-moi, il n'y a pas eu d'enquête sur ce scandale ?
Bah, si, mais la justice suisse a finalement suspendu ses investigations à l'issue d'une transaction avec la FIFA. À l'époque, la corruption privée concernant les structures comme la FIFA n'était pas systématiquement poursuivie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Et donc, malgré ce fiasco ISL dans les années 2000, Sepp Blatter reste tranquillement le patron du football mondial.
Bah oui, et comme toutes ces affaires ne l'ont pas fait tomber, eh bien Blatter se sent vraiment intouchable, tout puissant, comme en témoigne un très proche de Sepp Blatter, le président du club suisse, le FC Sion, Christian Constantin.
Lui s'imaginait pouvoir être peut-être un candidat pour le prix Nobel, hein, de la paix.
Vraiment ?
Très très franchement, oui. D'ailleurs, je vais vous expliquer une chose que j'ai vécue avec lui. On a l'élection du dernier pape. Je suis dans son bureau à Zurich, regarde l'élection du pape. Fumée blanche qui sort de la chapelle Sixtine. Et à ce moment-là, quand le nom n'est encore pas donné, Sepp dit « et le pape Sepp Blatter ». Je dis « mais t'es complètement dingue de pouvoir te prendre pour le pape ». Parce que finalement, il est très religieux, il est très croyant. Donc c'était quelque chose qui lui est pas venu dans la tête comme ça. Donc finalement...
C'était pas juste une boutade.
Une semi-boutade, mais qui démontre bien l'envie de pouvoir être à cette place. Le foot rend fada. Quand t'es reçu comme un numéro un dans tous les pays du monde où tu vas, évidemment que ça peut te faire drôle.
Autre scène qui résume bien l'état d'esprit de Sepp Blatter, cet échange entre le président de la FIFA et le juriste Mark Pitt, qui dans les années 2000 tente de remettre un peu d'ordre au sein de la FIFA.
Tout au commencement, il m'a dit « Vous croyez pas, monsieur Pitt, que moi j'ai pris de l'argent ?» Et moi j'ai dit « Oui, ben, vous savez, donner, c'est aussi un problème. » Je crois qu'il n'a pas vraiment compris. Pour lui, corruption, ça signifie prendre. Et celui qui donne, qui corrompt, oui, c'est normal, c'est un politicien. La mafia, n'est-ce pas ? Il tue des gens. Ici, on ne tue pas, c'est pas nécessaire. On donne un avantage à un collègue, un ami. Et on sait qui doit redonner quelque chose.
Mais alors, Benoît, dans la pratique, ces dons, comment ils se matérialisent ?
Alors, ça peut être des primes, des bonus accordés aux différentes fédérations ou confédérations, mais il y a aussi des subventions, comme le programme Goal, censé aider les pays en développement. Sauf que certains projets restent des projets fantômes ou ne vont pas jusqu'au bout, comme l'a constaté l'ancien sélectionneur du Bénin, René Talman.
Moi, j'ai voulu faire un projet, une académie de formation nationale, couplée avec une formation d'entraîneur. Sauf qu'il y a un mur qui n'est pas terminé, il y a un terrain qui n'est pas terminé, ce bâtiment sont là et sont inutilisés. Au niveau du projet Gaulle, il n'y a rien qui a été terminé, quoi. Et en principe, il y a un contrôleur. Au Bénin, c'était un ancien international camerounais. Il est venu voir et il a constaté et rien s'est fait après. Voilà, il y a les herbes qui poussent. C'est un gâchis financier. Cet argent est allé dans les poches de certains dirigeants.